Depuis mai 2012, l'épopée slave, l'œuvre majeure d'Alphonse Mucha, un des maîtres de l'art nouveau en peinture, est de nouveau exposée à Prague, au Palais des Foires. Kateřina Průšová est lectrice à la Galerie nationale de la ville de Prague et enseigne l'histoire de l'art à l'université anglo-américaine. Et c'est avec une grande gentillesse qu'elle a accepté d'être notre guide pour nous faire découvrir ce cycle de 20 tableaux. Cette deuxième partie de la visite nous permet d'entrevoir le talent de Mucha pour la mise en scène, son message pacifiste, et finalement sa volonté de propager un message d'amour entre les peuples slaves. Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Kateřina Průšová nous a déjà fait appréhender quelques-uns des thèmes majeurs du cycle de Mucha. L'épopée slave, cette vision intimiste de l'histoire slave, née de cette discussion avec de nombreux intellectuels du début du XXe siècle, et notamment avec celui qui est devenu le premier président tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk, regorge d'allusions à la franc-maçonnerie et présente les peuples comme porteurs de l'histoire. Les trois premières toiles de l'œuvre nous avaient permis de nous familiariser à la mythologie slave, à l'origine de ces peuples. La visite continue avec les mises en scène de plusieurs souverains marquants, à commencer par une représentation du couronnement en 1346 de Stéphane Uroš Dušan, qui devient alors empereur des Serbes et des Grecs, l'un des plus puissants souverains de son temps. Kateřina Průšová souligne la qualité de metteur en scène de Mucha, qui a assisté à la naissance du cinéma, un art qui a beaucoup influencé sa démarche.
Je parlais de cette mise en scène comme dans un film. Ce qu'on peut documenter très bien sur le couronnement du tsar Stéphane Uroš Dušan comme le tsar de l'Empire romain de l'Est. Et il se trouve ici au milieu, il ne se trouve pas au premier plan. Au premier plan, on a ces sujets qui portent un épée, on a des jeunes femmes qui nous contactent de leur regard, mais Stéphane Uroš se trouve dans le second plan. Dans le troisième plan, on voit sa femme, son épouse, qui était couronnée impératrice alors, seulement après vient son fils qui vient d'être couronné le roi des Serbes. Si vous imaginez le Nibelungen, c'est une mise en scène qui pourrait très bien se passer dans un film de ce type. Mucha lui-même a travaillé comme un maître en scène plutôt qu'un simple peintre de la peinture historique. Et on sait que même aux États-Unis, il y avait quelques producteurs qui ont voulu faire ce tableau ou ce cycle en film. On lui a proposé de faire le Notre Père, c'est un cycle qu'il a exécuté un peu plus tôt, en film. Donc il faut souligner dans l'œuvre de Mucha ses qualités cinéastes.
Une scénographie ainsi qu'un sens de la décoration poussée que l'on retrouve quand il s'agit du puissant roi des Bulgares, Siméon Ier, au Xe siècle, ou d'Otakar II de Bohême, un des plus illustres représentants de la dynastie des Pchemislides, roi guerrier, fondateur de nombreuses cités. Il meurt en 1278, alors qu'il avait prétendu au trône du Saint-Empire romain germanique. Mucha s'attaque ensuite à un nouveau triptyque, ayant pour thème l'histoire hussite, ce mouvement annonçant le protestantisme, critique du faste de l'Église catholique romaine, les trois scènes représentant autant de prêcheurs célèbres, à commencer par Jan Milic de Kroměříž, que nous présente Kateřina Průšová.
Le premier tableau de ce cycle, Jan Milic de Kroměříž, c'était un prêcheur qui a converti les prostituées, qui les a persuadées de devenir religieuses. Donc il a fondé, à la place d'une maison publique, il a fondé un monastère à la rue Konvitska, qui se trouve près de la rue Narodny, à Prague. On voit les anciens prostituées qui se sont habillées dans les vêtements blancs maintenant, et qui déposent leurs bijoux, leurs jolies robes. Cet événement se passe aussi en hiver. En hiver, on voit la neige qui est le symbole de la pureté, et la neige fond quelque part, c'est le printemps qui nous est annoncé. Et on voit aussi la construction de ces nouveaux monastères. donc la construction qui peut être lue comme un symbole ou dans le contexte de franc-maçonnerie.
La seconde partie de ce triptyque est une toile aux dimensions impressionnantes qui met en scène Jan Hus, le fondateur du mouvement Hussite, admiré par Moucha et par Masaryk.
Donc le second tableau, qui est évidemment très très, très grand, c'est Jan Hus qui se penche de la tribune dans la chapelle de Bethléem, mais la chapelle de Bethléem qui est aujourd'hui à Bethléem-Skenamiski. Vous savez que c'est une reconstruction des années 50 de la chapelle originale, mais Moucha ne savait pas à quoi ça ressemblait exactement à l'époque de Jan Hus. Donc il nous a montré la construction qui était sur place jusqu'à l'époque baroque, jusqu'à 17e, 18e, elle a été détruite, donc c'était une construction gothique tardive. Dans ce tableau, Moucha, vous nous montrez que Hus a prêché pour tout le monde, pour toutes les classes de la société qui s'y rencontrent. Donc on voit les plus pauvres et les plus riches. Sous le baldaquin à droite, on voit la reine Sophie.
L'œuvre qui clôt cette série représente le prêtre Václav Koranda qui appelle les Hussites à prendre les armes. La guerre est ainsi le sujet de la composition des trois nouvelles toiles qui se présentent ensuite aux spectateurs. Et Moucha choisit un angle original. Il ne montre pas la bataille mais le désespoir qui s'ensuit pour les vaincus comme pour les vainqueurs, à l'image de ce tableau qui représente la bataille de Grunwald.
Cet événement, c'est après la bataille de Grunwald. La bataille de Grunwald a eu lieu en 1410. C'est une bataille très très importante pour l'histoire polonaise, où l'armée polonaise, conduite par Władysław Jagiello, qui était alliée avec des Lituaniens, a gagné sur les chevaliers de l'ordre Teutonie. Donc, ils étaient... D'après quelques historiens, ils étaient soutenus aussi par Jan Žižka, ils étaient soutenus par les Hussites. Mais ils ne montrent pas la bataille elle-même, mais la situation après la bataille pour montrer la catastrophe.
Pour Moucha, la guerre ne sème que destruction et malheur et son pacifisme s'exprime encore avec l'hommage rendu à Peter Chrzelczycki qui appelle à ne pas venger le sang par le sang après la destruction du village de Vodniani ou encore quand il met en scène l'héroïsme suicidaire du prince croate Nikola Šubić-Zrinski défendant la ville hongroise de Sigetvar, finalement détruite par les Turcs dans une composition où tout annonce la mort environnante. Moucha revient ensuite à l'un de ses thèmes de prédilection, les frères tchèques et l'importance du développement de la connaissance qui mène à l'émancipation. Katarzyna Pluszowa.
Ici, on voit l'école de l'union des frères à Ivančice. Ivančice, c'est la ville en Moravie où Moucha est né. Et ici, les intellectuels sont en train d'imprimer en cachette la Bible de Kralice. Et après, secrètement, cette imprimerie a été déménagée à Kralice, où l'impression de cette Bible a été complétée. La Bible de Kralice, qui est une traduction très, très bien réussie, était le livre principal pour les francs-maçons. Et c'est un exemplaire de Bible de Kralice était dans tous les loges de francs-maçons dans ce pays.
L'avant-dernier tableau du cycle, le serment d'Omladina, que Moucha, surpris par la critique à l'encontre d'une œuvre qu'il pensait moins polémique, n'a pas terminé, est également fort d'une thématique franc-maçonnique puisqu'elle semble en présenter un rituel. La toile qui fait suite à l'impression de la Bible de Kralice est quant à elle dédiée au grand pédagogue Comenius, Jan Amos Komenski, membre des frères Moraves, un mouvement lié aux frères tchèques, un intellectuel très respecté de Moucha et de Masaryk. C'est d'ailleurs le seul tableau que le peintre signe de son nom.
Nous montre la mort de ce sage qui est, d'après la description que Moucha avait à disposition, qui est mort à la mer. D'après les sources que Moucha a utilisées, Komenski s'est laissé porter en Ardennes, aux Pays-Bas. Alors on voit quelques moulins derrière. Il s'est laissé porter à la mer pour observer l'océan. Et vous voyez que la ligne de son des corps de Komensky, qui vient de mourir, touche également le ciel, la mer et la terre.
Comme bien souvent, Moucha s'affranchit de la réalité historique, ou plutôt géographique, puisqu'il n'y a pas la mer dans les Ardennes. Il nous fait encore voyager quand il nous emmène en Grèce, au sein du monastère du mont Athos, où il mène à nouveau surnaturel et réel dans la représentation magique d'un lieu qui l'a beaucoup impressionné. On part ensuite en Russie pour l'abolition du servage, symbole d'une libération qui ne s'accompagne pas forcément d'une émancipation. Katarzyna Pluchowa.
Un tableau qui représente l'abolition de la servitude en Russie a été beaucoup admiré par le mécène de Moucha, par Sir Richard Crane, qui était un grand russophile et slovanophile. Et Moucha a peint une version un peu plus petite, un peu réduite pour son mécène. Pour exécuter ce tableau, Moucha a voyagé en Russie en 1913. L'abolition de la servitude a eu lieu dans les années 60 du 19e déjà, mais il a témoigné la même atmosphère un peu, un récit où les gens ne savent pas où est-ce qu'ils appartiennent, ils ne savent pas exactement quoi faire avec leur nouvelle liberté. Et c'est ce qui a beaucoup surpris Moucha et c'est ce qu'il avait envie de nous transmettre.
Une émancipation que le tableau qui achève le cycle de Moucha semble symboliser, l'apothéose des Slaves. Il s'agit d'un résumé de l'épopée slave, une composition foisonnante, un festival de couleurs représentant chacune une époque de l'histoire slave, de personnages, de symboles religieux comme franc-maçonniques ou encore de scènes diverses avec une cérémonie religieuse ou les conséquences de la bataille de la Montagne Blanche lorsqu'en 1621 les Tchèques perdent leur souveraineté pour plusieurs siècles. L'œuvre tout entière symbolise le lent chemin des nations slaves en vue de leur unification et souhaitent refonder les bases d'un imaginaire collectif propre à tous ces peuples. Très critiquée pour son anachronisme, l'épopée slave sera également bannie par les nazis qui ne peuvent accepter cette représentation d'une entité slave qui se serait construite contre l'entité germanique. Elle ne trouvera pas non plus grâce aux yeux des communistes qui lui reprochent son mysticisme. Finalement, le cycle de Moucha n'a été réhabilité qu'à une époque très récente, comme le note Katarzyna Pluchowa.
Je pense qu'aussi avec la pensée d'un peu postmoderne, on est maintenant prêt à accepter que des différents styles peuvent coexister en même temps. Donc je pense que seulement aujourd'hui on est préparé à accepter ce cycle et de comprendre son message qui appelle à l'amour, au concord, etc. Ces idées de francs-maçons. Parce qu'avant, on disait vraiment c'est trop à la 19e, c'est pas assez moderne.
Pour compléter cette visite radiophonique, nous ne pouvons que vous inviter à vous rendre au Palais des Foires, situé dans le quartier d'Olechovice à Prague, où sont exposées les toiles de l'épopée slave jusqu'à la fin du mois de septembre 2013.